bourrée de bistrot. Pigalle, sa vie, sa gueule, la chambre de la
chambre. Il est
7h. Il est 7h.
Écoute de Radio France Internationale, il est 7h à Paris, 6h en temps universel.
Marion Cazanov.
Et Julien Coquelroem pour le journal. Bonjour Julien.
Bonjour Marion. À la une de ce journal, Téhéran prête à répondre de manière immédiate à toute attaque. Les mises en garde du régime iranien, alors que Donald Trump menace toujours de le frapper, la presse américaine fait état de nouvelles options militaires présentées au président. On appelle notre correspondant en Iran dans un instant. Dans ce journal également, la Syrie et l'inquiétude des habitants de la ville de Hasaké, toujours aux mains des forces kurdes, une ville suspendue aux négociations pour un accord avec Damas. Aux États-Unis, les promesses du monsieur immigration de Donald Trump pour apaiser la colère contre la police ICE à Minneapolis. Et puis ce signal désastreux en France, le feu vert hier du Sénat à une reprise de l'exploration et de l'exploitation des hydrocarbures dans les Outre-mer.
Il espère ne pas devoir utiliser la force contre l'Iran.
Les mots cette nuit de Donald Trump qui met Téhéran sous pression depuis la répression brutale de la contestation du début du mois. Le président américain exige désormais un accord sur le nucléaire iranien pour ne pas frapper le régime des menaces de plus en plus sérieuses. Comme en témoigne le New York Times qui révèle aujourd'hui que de nouvelles options militaires sont à l'étude, y compris des raids de l'armée américaine directement sur le sol iranien. Bonjour Siavosh Ghazi.
Bonjour.
En direct de Téhéran, l'Iran hausse le ton lui aussi pour promettre une riposte en cas d'attaque.
Absolument. Hier soir, le porte-parole de l'armée iranienne a affirmé que la réaction de l'Iran à toute attaque sera immédiate et ferme. Si Trump pense qu'il va mener une attaque rapide et que 2 heures après, il va publier un tweet pour dire que l'opération est terminée, ça ne sera pas le cas. La guerre s'étendra à toute la région. Israël, au pays de la région où il y a des bases américaines, a déclaré ce général. Il a aussi ajouté que les porte-avions américains ont des points de faiblesse et peuvent être frappés avec des missiles supersoniques iraniens. Mais dans le même temps, l'Iran multiplie les contacts diplomatiques avec les pays de la région pour empêcher une escalade et éviter une guerre. Mais les conditions posées par Donald Trump rendent particulièrement difficile tout accord et toute négociation.
Et Siavosh, le régime réagit aussi à cette mesure prise hier par l'Union européenne, l'inscription des gardiens de la révolution sur la liste des groupes terroristes.
Absolument. Le chef de la diplomatie a qualifié d'erreur stratégique la décision des 27. La décision de l'Union européenne est considérée ici comme une déclaration de guerre contre le pouvoir. Les gardiens de la révolution sont la principale force armée du pays avec pour mission de défendre le pouvoir islamique. Ils contrôlent par exemple les programmes balistiques et de drones, mais aussi le programme spatial du pays, sans compter leur implication dans une grande partie de l'économie iranienne.
Siavosh Ghazi à Téhéran pour RFI. Merci beaucoup. On continue de suivre la situation avec vous.
Et l'actualité dans la région, c'est le sort des habitants du nord-est syrien en proie au combat depuis des semaines.
Alors que les autorités syriennes ont regagné du terrain ces dernières semaines, les forces kurdes se sont repliées dans leurs bastions et notamment la ville d'Asaké qu'elles contrôlent encore. Ses habitants vivent aujourd'hui suspendus à un éventuel accord, prêts à partir en cas de rupture du cessez-le-feu pour ceux qui ne l'ont pas déjà fait. Reportage sur place de Marie-Charlotte Roupy.
À moins de 10 km du front, le centre-ville de Hasaké a retrouvé son défilé interminable de voitures. 5 jours après le prolongement du cessez-le-feu entre les forces kurdes et l'armée de Damas, certains habitants sont revenus.
Nous pensions que des attaques allaient se produire, que nous serions assiégés ou tués les uns après les autres. Comme rien ne s'est passé, les habitants attendent la réunion à Damas pour résoudre le conflit avec le président syrien.
Hakim, 56 ans, n'a pas fui la ville à l'approche de la fin du précédent cessez-le-feu samedi dernier, mais il a envoyé ses enfants loin du front, comme Aziz, qui craint encore que les négociations en cours échouent.
Nous n'accordons aucune confiance à ces forces armées, et pour cette raison, nous garderons éloignés les enfants.
À la sortie de la ville, une camionnette chargée de valises peine à démarrer. À bord, Moutarab et ses proches, une famille arabe de Hasaké.
On ne sait pas si l'accord va être passé ou non, personne ne le sait. Ça peut se transformer en conflit sectaire comme ça peut ne pas le devenir, en fonction de l'ambiance et selon les conditions. Nous avons peur de la situation et des combats, donc nous voulons sortir de Hasaké.
Un accord annoncé par les médias publics syriens ces derniers jours attend toujours d'être confirmé côté kurde, laissant peser sur les habitants de l'extrême nord de la Syrie la menace d'un nouvel échec des négociations. Maréchal Le Tropic, Camille RFI.
RFI minuit 5 à Minneapolis. Moins de descentes musclées, moins de contrôle aux faciès et des opérations plus ciblées.
Les promesses hier de Tom Homan, le monsieur immigration de Donald Trump envoyé à Minneapolis pour calmer le jeu et la colère après la mort ces dernières semaines de deux manifestants tués par balles alors qu'ils s'opposaient aux opérations de la police de l'immigration ICE. Tom Homan annonce qu'il a demandé aux agences fédérales de réfléchir à un plan de retrait mission apaisement après les propos bien moins conciliants du conseiller de Trump Stephen Miller ou de la secrétaire à la sécurité intérieure Christine Noem ces derniers jours. Mais pas de quoi convaincre sur le terrain, la confiance est rompue avec les manifestants. Comme nous le dit Richard Hall, ancien professeur des universités, il manifestait hier devant le siège du parti républicain à Minneapolis.
Oui, il y a un changement de registre. Ils veulent avoir l'air conciliant pour changer la perception de cette séquence. Mais ils ne vont rien faire de concret. S'ils voulaient montrer qu'ils prennent tout ça au sérieux, ils feraient venir Stephen Miller, ils feraient venir Christine Noem et ils leur demanderaient de s'excuser auprès des familles de ces deux innocents qui ont été tués. S'ils font ça et s'ils retirent ICE, à ce moment-là, on pourra leur dire « Vous avez gagné un petit peu de respect ». Mais pour l'instant, ils font juste semblant d'être raisonnables alors qu'ils ne le sont pas. Et les gars d'ICE sont toujours partout dans Minneapolis en train de ramasser des gens dans leur filet.
Picking people up in their dragnet. Ce manifestant à Minneapolis avec Vincent Souriau et dans ce contexte un nouveau shutdown en perspective. Trois mois après la dernière paralysie budgétaire aux États-Unis, les démocrates ont refusé ces derniers jours de voter le budget du ministère de la Sécurité intérieure, faute de réforme de la police ICE. Le shutdown devrait toutefois être de courte durée puisque les sénateurs ont trouvé un accord cette nuit avec la Maison-Blanche pour mettre entre parenthèses pendant deux semaines le budget de l'ICE. Le texte pourrait passer à la Chambre haute aujourd'hui, à quelques heures de la date butoir, mais seulement lundi devant la Chambre des représentants, d'où ce probable week-end de paralysie pour plusieurs ministères.
À la une également ce matin, le Mozambique toujours en proie à des inondations historiques.
Outre le bilan humain et environnemental très lourd, les infrastructures sont elles aussi durement frappées. Les réseaux électriques, internet et surtout routiers sont endommagés, tout particulièrement dans la province la plus touchée, celle de Gaza, dans le sud du pays, où des voyageurs coincés par les eaux sont prêts à tout pour partir. Gaël Alex.
La partie basse de la ville de Chaïchaï est maintenant surnommée les docks. Là, des voyageurs attendent nuit et jour de pouvoir traverser la zone inondée. L'Eshmina doit reprendre le travail à Maputo.
Je suis arrivée hier à 22h et j'attends toujours ici. Je ne sais même pas si je vais réussir à traverser.
Est-ce que vous savez le trajet que vous allez faire ?
Non, j'ai peur, très peur, de mourir ici si le bateau se renverse.
Est-ce que vous savez nager ?
Non, je ne sais pas.
Des petits bateaux d'une dizaine de passagers enchaînent les allers-retours. Ce commerce est rentable, selon France Sèche, qui vient de Sofala dans le nord et tente de rejoindre la capitale.
La traversée coûte 500 métikaïches. C'est beaucoup, mais on n'a pas le choix. Et après la traversée jusqu'à Maputo, je ne sais pas combien ça va me coûter. J'ai déjà dépensé 1400 pour venir ici. Donc j'ai déjà perdu 1900 métikaïches, environ 25 euros, et je suis encore en route.
De l'autre côté, de nouveau des voyageurs impatients. Les bateaux et les bus manquent. Le capitaine Biliou se désole de cette situation. Il a préféré louer son bateau à l'ONG Save the Children.
Ça fait mal au cœur. Ce n'est pas bien ce commerce des traversées. Mais bon, ils ont des bateaux mais pas d'essence. Alors ils font payer un peu pour le carburant, je comprends. Mais c'est pas simple, beaucoup de personnes souffrent.
Selon les autorités, plus de 800 000 mozambicains sont affectés par les inondations. Gaël Alex, Chai Chai, RFI.
Et les autorités du Mozambique estiment qu'il faudra environ 650 millions de dollars pour reconstruire le pays.
En France, le gouvernement était contre et la ministre de la Transition écologique menaçait de démissionner.
Mais ça n'a pas empêché les sénateurs français de donner hier leur feu vert pour relancer l'exploration et l'exploitation des hydrocarbures dans les Outre-mer, un recul majeur initié par le groupe macroniste. Bientôt 10 ans après l'interdiction valable sur tout le territoire français, l'avenir du texte est encore incertain. Il doit passer par l'Assemblée nationale. Mais pour un pays qui se présente comme un champion de la lutte contre le changement climatique, le symbole n'en est pas moins terrible, Simon Rosé.
227 voix pour, 105 contre. Qu'importe que le gouvernement se soit opposé au texte, qu'importe que le patron de Total Énergie lui-même, Patrick Pouyanné, ait déclaré sous serment devant le Sénat qu'il n'y avait pas d'hydrocarbures en Guyane. Le texte de Georges Patient, sénateur de cette collectivité territoriale, a été adopté largement. Un non-sens, selon Gaïa Fèvre, responsable des politiques internationales au réseau Action Climat.
C'est une remise en cause des engagements internationaux de la France en matière de climat et de protection de la biodiversité, mais aussi parce que cette proposition de loi, elle repose sur une promesse complètement illusoire de retombées économiques, alors même que ces territoires d'outre-mer en seraient les premières victimes. Déjà parce qu'ils sont en première ligne des impacts du changement climatique causé par les énergies fossiles.
Les ONG environnementales qui mettent notamment en avant d'autres leviers à activer, comme l'énorme potentiel en énergie renouvelable dont disposent les Outre-mer. Le texte va dans tous les cas poursuivre son chemin législatif. Il est désormais transmis à l'Assemblée nationale, mais sans aucune garantie d'être inscrit à l'ordre du jour dans les prochaines semaines.
Simon Rosé.
Et puis, cela fait 7 mois et 1 jour qu'il est emprisonné en Algérie.
Christophe Glaise, qui purge une peine de 7 ans de prison pour apologie du terrorisme, confirmé en appel début décembre, le journaliste sportif français avait été interpellé en mai 2024, accusé d'avoir eu des liens avec un mouvement séparatiste alors qu'il enquêtait sur un club de football kabyle. Et hier soir, ses soutiens se sont rassemblés à l'appel de Reporters sans frontières dans la salle de concert du Bataclan à Paris, une soirée en musique pour élargir la mobilisation en faveur de sa libération. Reportage, Baptiste Coulon.
Sur la scène du Bataclan, ils sont 4. 4 journalistes, 4 amis de Christophe Glaise. Franck Hannes, directeur du magazine SoFoot, sans part du micro.
Et à l'époque, on nous promettait que dans la semaine, il rentrerait. Et là, maintenant, ça fait longtemps, en fait. Et ce serait bien que les gens se bougent un peu, et des gens un peu plus haut placés. Parce que nous, on se sent très impuissants.
Face à l'impuissance, une nécessité, celle d'élargir le soutien. Appel entendu par l'ex-international français Vikesh Dorasso.
Ce que j'aimerais, c'est vraiment que d'autres footballeurs importants prennent la parole. Vous savez, quels sont les joueurs importants qui pourraient apporter beaucoup de poids à son combat.
Un prénom est alors scandé par le public, celui de Zinedine Zidane. Cet appel pourrait-il être relayé par la Fédération française de football ? Son patron, Philippe Diallo, botte en touche.
Quand on défend la liberté, c'est aussi la liberté pour certains de ne pas s'exprimer publiquement.
Pour Francis Godard, beau-père de Christophe Glaise, ce soutien serait au contraire un juste retour des choses.
Les journalistes comme Christophe, c'est eux qui racontent leur histoire, c'est eux qui construisent leur légende. Si les stars étaient des vraies stars dans l'âme, ça ils seraient.
Silence sur la planète football, contrairement à celle des artistes. La musique, c'est l'autre passion de Christophe Glaise. Elle remplace les mots qui manquent pour conclure la soirée.
Baptiste Coulon et les soutiens de Christophe Glaise qui évoquent un signal positif. L'ancienne ministre Ségolène Royal pourra rendre visite aux journalistes aujourd'hui en prison. Il devrait aussi être transféré prochainement dans une prison d'Alger, ce qui pourrait faciliter les contacts avec son avocat.
Julien Coquel-Rohem pour le journal. 7h13 à Paris, 6h13 en temps universel. Place au sport. Avec vous Antoine Grenier, en football, la Ligue Europa, avec une 8e et dernière journée de phase de Ligue qui a tenu toutes ses promesses. Côté français, 3 clubs, 3 ambiances.
Avec un Lyon premier de la classe, grâce à son succès 4-2 sur le PAOK Salonique, l'OL termine en tête du classement. Un bon élève, Rémi Imbert, devenu à 17 ans et 334 jours le buteur lyonnais le plus jeune en Coupe d'Europe, devant un certain Karim Benzema, s'il vous plaît. Lyon premier, Lille barragiste, le LOSC qualifié après sa victoire 1-0 sur les Allemands de Fribourg. Premier succès en 2026 pour des Dogs qui avaient enchaîné 5 revers consécutifs et avec à la baguette l'inévitable Olivier Giroud. Un pénalty dans le temps additionnel et le champion du monde 2018 redonne de la confiance aux Lillois.
On l'a très bien entamé, on les a mis sous pression, on a effectué un bon pressing, on a appliqué les consignes du coach.
Et surtout, il fallait retrouver cette solidité, faire un clean sheet. Alors, tout n'a pas été parfait devant, mais on s'est forcé vraiment d'être appliqué, concentré. Et c'est comme ça qu'il faut rebondir avec les bases. Et je suis fier des mecs ce soir parce que c'était pas évident. Et on a fait le boulot jusqu'au bout, même si on aurait pu marquer avant, mais on y a cru jusqu'au bout et on est là.
Olivier Giroud chez nos confrères de Canal+. Dernier club français engagé, Nice n'a pas fait de miracle avec une équipe rajeunie. Le Gym s'est incliné 1-0 face à Ludogorets. 7e défaite en 8 matchs pour les Niçois.
Après l'Europe, la France, 20e journée de Ligue 1, le Racing Club de Lens ouvre le bal.
Les Saints et Or, 2e au classement, affrontent le Havre. Rebond attendu pour les Lensois qui ont perdu leur premier match depuis 3 mois le week-end dernier. C'était face à l'OM. Un résultat qui leur a fait perdre leur première place de Ligue 1 au profit du Paris Saint-Germain. Lens le Havre, coup d'envoi 19h45. Temps universel.
En balle, Antoine, place aux demi-finales de l'Euro.
À 16h45, TU, l'Allemagne, tombeuse de la France en phase de groupe, affronte la Croatie. Et puis à 19h30, temps universel, le Danemark, finaliste il y a 2 ans, se mesure à l'Islande.
Du tennis avec les demi-finales de l'Open d'Australie. 3e set en cours entre Carlos Alcaraz et Alexander Zverev.
L'Espagnol a poursuivi son sans-faute en remportant un 4e tie-break dans ce tournoi. C'était pour mener 2 manches à rien. Dans le 3e set, les deux hommes en sont à 3 partout. Le vainqueur de cette demi-finale affrontera pour le titre soit Yannick Sinner, 24 ans et numéro 2 mondial, soit Novak Djokovic, l'homme aux 24 titres du Grand Chelem, titré 10 fois à Melbourne. À 38 ans, Papi Djoko fait de la résistance. Il était très mal en point en quart de finale, mené 2-7-0 par Lorenzo Musetti, mais l'Italien s'est blessé et a dû abandonner. Alors Novak Djokovic peut-il vraiment inquiéter Yannick Sinner, qu'il a battu lors de leurs 5 dernières confrontations? En tout cas, l'Italien se méfie.
You know the level he is still playing, he is... I think the most professional.
Il joue encore à un niveau incroyable, c'est le plus professionnel de nous tous. Novak est un exemple, il a tellement d'expérience. Regardez-le sur le court, il sait toujours trouver la solution pour s'en sortir. Moi, j'ai 24 ans, mais c'est une chance d'avoir quelqu'un comme lui sous nos yeux. Chaque fois qu'il joue, j'apprends quelque chose en le regardant. La façon dont il joue, la façon dont il se déplace sur le court, ça reste une inspiration, surtout pour nous, les jeunes joueurs.
For all of us and especially the young players.
Sinner Djokovic, premier service à 8h30, temps universel.
Et je ne sais pas si le Serbe appréciera Papi Djoko. Merci en tout cas Antoine Grenier pour le journal des sports. Dans 3 minutes, on parle sport féminin cette fois avec notre invitée, la hockeyeuse française Sophie Leclerc, marraine de l'opération Sport Féminin, toujours pour la visibilité des femmes dans le sport. 7h17 à Paris. L'économie africaine passée au crible dans un livre de l'Agence française de développement. On en parle dans Aujourd'hui l'économie avec vous, Alexis Bédu, bonjour.
Bonjour Marion, bonjour à tous.
Croissance économique qui accélère depuis la pandémie de Covid, croissance démographique la plus forte au monde, des atouts pour l'Afrique qui sont autant de défis.
Oui, un habitant sur 4 sera africain en 2050 sur notre planète. Cette croissance démographique fulgurante, c'est une force de travail, une capacité d'innovation et de création immense. À l'opposé, l'Europe entre dans un hiver démographique, pourrait perdre 20% de sa population active d'ici 25 ans. La Chine a enregistré son plus faible taux de naissance l'année dernière. Alors la carte majeure du continent africain, c'est sa démographie, sa jeunesse, à condition qu'elle soit accompagnée des investissements nécessaires.
Et quels sont les pays qui profitent économiquement de cette forte démographie, qui retirent ce qu'on appelle les dividendes démographiques? La situation est assez contrastée, Alexis.
Oui, l'Afrique du Nord et l'Afrique australe sont en train de réussir leur transition démographique. On a vu le taux de natalité se réduire en Afrique du Sud et au Maroc, contrairement à l'Afrique de l'Est où il y a encore beaucoup de naissances, en Éthiopie, au Kenya, en Ouganda, puis l'Afrique de l'Ouest avec le Sahel où se trouvent les taux de fécondité les plus élevés du monde. Alors un taux de fécondité trop élevé peut aussi être néfaste à l'économie, Marion. Le Rwanda et le Malawi, via des programmes de planification familiale, ont réussi à ramener ce taux à 3,6 enfants par femme.
Justement, parmi les défis que vous évoquez pour accompagner cette démographie, il y a la question centrale de l'emploi.
Oui, ce dividende, ce petit bonus de croissance économique grâce à la démographie, il intervient quand la fécondité baisse, qu'il y a proportionnellement moins d'enfants à charge et que la génération nombreuse née pendant le boom démographique est en âge de travailler. Pour en profiter, il faut investir dans l'éducation, créer des emplois décents et sortir d'une économie informelle qui précarise sa jeunesse.
Et les pays européens, Alexis, auraient tout intérêt à préserver leur financement pour une Afrique dynamique?
Ah oui, la bonne santé économique de l'Afrique est très importante pour les économies européennes. Or, l'aide publique au développement a drastiquement baissé en Europe ces c'est encore le cas en France pour le projet de loi de finances 2026 avec de nouvelles coupes. Rémy Rioux, directeur de l'Agence française de développement, l'AFD, appelle à un nouveau cadre de l'aide au développement.
Moi, je pense qu'il faut passer d'une logique d'aide qui est mal comprise, parfois rejetée, à une logique d'investissement de qualité, d'investissement solidaire et durable qui crée du lien social, qui intègre le climat et de la croissance économique, évidemment, pour faire face, pour créer des emplois. J'espère que cette année 2026, que la présidence française du G7 contribuera à faire émerger ce nouveau cadre et une architecture puissante de financement du développement.
En attendant cette révolution, l'Afrique devra avant tout compter sur elle-même en 2026, avec des prévisions de croissance à deux chiffres dans certains pays comme la Guinée et 4,6% en moyenne. La croissance africaine pourrait même dépasser pour la première fois la croissance asiatique, et ça, c'est le FMI qui le dit.
Alexis Bédu pour Aujourd'hui l'économie, RFI 7h20 à Paris. Jusqu'à dimanche, l'ARCOM, l'autorité française de régulation des médias, organise son opération annuelle sport féminin, toujours pour mettre en avant les femmes dans le sport, car si elles sont plus médiatisées qu'avant, il y a encore bien des progrès à faire. Sophie Leclerc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes cette année la marraine de l'opération Sport Féminin Toujours, à laquelle RFI participe. Vous faites aussi partie de l'équipe de France féminine de hockey sur glace. Et vous allez jouer dans une semaine vos premiers JO d'hiver à Milan Cortina. C'est la première fois que les Bleus se qualifient. Comment vous sentez-vous à une semaine du coup d'envoi ?
Eh ben écoutez, ouais, c'est la première fois que l'équipe de France féminine se qualifie pour les JO. Et du coup, bah, avant ce qu'on a voit, je suis très impatiente. J'ai hâte de découvrir, j'ai hâte de jouer, j'ai hâte de ressentir un petit peu toutes les émotions, parce que ça va être tout va être amplifié. Donc, j'ai vraiment hâte de découvrir. Et puis, bah, je suis plutôt déterminée à produire du beau hockey.
Alors, dans votre discipline, il y a des géants, des nations qui raflent tout. Je pense aux États-Unis et au Canada. Là-bas, c'est un sport plus suivi, plus populaire qu'en France. Comment comptez-vous rivaliser avec ces machines ? Et quelle est la force de la machine française ?
Oui, bah c'est sûr qu'il y a encore un grand écart entre les grosses nations comme vous avez cité et nous, l'équipe de France, mais cet écart se diminue progressivement. Du coup, vu qu'on a la chance de venir au JO, concrètement, nous, ce qu'on va... pour essayer de rivaliser, même si c'est pas vraiment le terme, mais pour montrer que la France a sa place au niveau international, ça va être surtout en fait de montrer notre identité et l'identité justement de l'équipe de France féminine de hockey. C'est surtout en fait le fait qu'on a des filles qui sont des travailleuses, qui lâchent jamais, et surtout il y a une grosse cohésion d'équipe, il y a vraiment une ambiance, l'envie de partager, l'envie de se battre en fait pour la coéquipière. Et je pense que c'est surtout sur ça que nous, on va se baser pour pouvoir créer notre jeu. Ça va être vraiment sur notre force collective qu'on va essayer d'aller chercher les points sur chaque match.
Et alors, vous êtes donc la marraine de l'opération Sport Féminin Toujours, je le disais, pour inciter à la médiatisation du sport féminin. C'est vrai, c'est clair, on parle moins des championnes que des champions. C'est la photo sponsor, disent les médias. C'est la photo média, disent les sponsors. C'est la photo publique, pas assez nombreux, on le dit aussi. Chacun se renvoie la balle. Alors, la faute à qui, Sophie Leclerc ?
C'est une bonne question. Je pense que c'est un mélange de tout. En fait, chacun attend que l'autre fasse un peu plus d'efforts pour l'avoir. Et en fait, je pense que c'est un peu un cercle vicieux où les médias, les sponsors, les joueuses, tout, en fait, il y a besoin aussi d'argent quelque part. Donc, je pense que tout le monde se renvoie la balle. Personne ne veut faire le premier pas. Alors qu'en fait, on demande que ça, d'avoir un petit peu plus de visibilité pour justement montrer à quel point le sport féminin, c'est un sport qui mérite d'être regardé. Donc je ne peux pas dire à qui vient la faute, parce que je pense que c'est un ensemble de petits détails qui, si on joue dessus, pourraient améliorer cette visibilité.
Et pourtant, c'est vrai, l'attrait est là. La Coupe du Monde féminine de foot, par exemple, en Australie, en 2023, a été un succès. Comme la finale France-États-Unis de basket au JO, qui avait été très regardée. En France, on a beaucoup regardé la révélation Loïs Boisson à Roland-Garros. Qu'est-ce qui bloque si le public est demandeur ?
C'est vrai qu'on voit que ces dernières années, il y a quand même pas mal de compétitions qui sont de plus en plus regardées, avec des filles, que ce soit des filles en individuel ou en collective, qui font des bons résultats. Mais peut-être que le problème reste sur les grosses compétitions, on arrive à avoir un petit peu de spectateurs, mais en fait derrière,
L'intérêt retombe après.
L'intérêt retombe un petit peu derrière et on a du mal à garder cet intérêt élevé. Mais c'est vrai que ces dernières années, il y a quand même eu des très bons résultats filles. Les gens ont commencé à voir qu'en fait, oui, le sport féminin existait et était à très haut niveau. Mais c'est vrai que pour l'instant, l'intérêt, on n'arrive pas à le garder au haut niveau, comme des fois, ben, les garçons, on peut les voir un peu plus, on va dire.
Et le sport féminin souffre aussi, c'est vrai, d'idées reçues sur les performances des femmes qui seraient moins fortes, moins rapides, moins explosives, bref, plus ennuyeuses à suivre que les compétitions masculines. Qu'est-ce que vous répondez à ces clichés-là?
Ouais, bah c'est ça en fait, moi on va dire le point que je trouve un peu plus dommage, c'est qu'on a toujours comparé la capacité physique d'une fille à la capacité physique d'un garçon et qu'on compare ensuite le sport derrière en fonction des garçons. Sauf qu'au final, oui, une femme peut pas forcément avoir la même vitesse ou la même capacité physique qu'un garçon, mais c'est ça qui est beau dans les sports féminins, c'est que justement, même si on joue sur le même terrain ou avec les mêmes ballons, enfin les mêmes règles, on adapte notre performance physique à notre jeu. Et ça fait un jeu qui est complètement différent, qui des fois est plus tactique, plus réfléchi, plus en passe, plus collectif. Enfin voilà, avec des aspects qui sont au final complètement différents, mais qui rend le jeu d'autant plus intéressant à regarder. Donc moi, c'est ça que je réponds, c'est que je dis, oui, j'ai pas le même physique qu'un homme, mais ça n'empêche pas que je peux faire un match de hockey très intéressant.
Trouvez-vous qu'on en demande plus aux femmes dans le sport? On leur demande des performances, on parlait des performances masculines considérées parfois à tort comme plus intéressantes. On en demanderait un peu plus aux femmes, c'est-à-dire de faire des performances incroyables pour avoir le droit d'être médiatisées quand les hommes sont médiatisés, eux, quoi qu'il arrive. Est-ce que vous ressentez cette forme d'inégalité-là aussi ?
Oui, sur ce point, oui, je suis d'accord. C'est vrai que, en fait, nous, on parle de nous que quand on a vraiment des très, très, très beaux résultats. Et c'est ça qui est encore un petit peu dommage. C'est qu'en fait, si on ne performe pas, on n'a pas de visibilité. Ou, c'est plutôt ça. C'est que on n'a pas une visibilité, comme on disait, qui est régulière. Elle est là que quand on performe et elle diminue très rapidement dès qu'il n'y a pas la performance.
Et alors justement, est-ce que dans le hockey, il y a aussi des a priori, il y a aussi ces mêmes comparaisons entre les femmes et les hommes de performances qui seraient plus impressionnantes chez les hommes du coup ?
Oui, il y a dans le hockey, surtout que le hockey, pour l'instant, il y a encore un sport qui est majoritairement masculin. Donc, on a encore du mal à faire modifier le regard et on compare le hockey à quelque chose de, le hockey connu comme physique. Et du coup, on dit, le sport féminin, il n'y a pas de contact. Donc, ça intéresse peut-être un petit peu moins. Donc, il y a encore beaucoup de comparaisons, que ce soit sur la vitesse de patinage ou plutôt l'impact physique.
Est-ce que vous, depuis ces dernières années, est-ce que vous observez quand même qu'il y a un peu plus d'intérêt pour le sport féminin, qu'il y a du progrès au fil des années?
Oui, on remarque quand même qu'il y a du progrès et ça fait quand même du bien, ça fait du bien à voir, ça motive un peu plus et ça donne un petit élan supplémentaire pour continuer à faire ce qu'on fait. Donc c'est vrai que moi je trouve que sur les dernières années, il y a quand même eu un net progrès sur la visibilité, mais comme on disait plus tôt, c'est aussi parce qu'il y a eu des équipes féminines, des sportives individuelles qui ont fait des résultats, qui ont montré que le sport féminin méritait d'être vu, qui ont porté haut et fort, on va dire, un message de « regardez-nous ». Et c'est ça qui permet qu'il y a eu une évolution sur la médiatisation et sur le regard que les gens portent sur notre sport.
Et alors pourquoi c'est important, au-delà de l'enjeu sportif, de donner plus de visibilité au sport féminin? En quoi est-ce que c'est important de donner des modèles aux jeunes filles, des modèles féminins dans le sport?
Je pense que c'est important de montrer justement des modèles parce que on sait qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui, à un moment de leur vie, notamment c'est à l'adolescence, qui peut-être se sentent un petit peu perdues, qui arrêtent le sport. Alors qu'en fait, on sait que le sport, en plus de juste la performance, ça apporte quand même beaucoup de choses, que ce soit en termes d'expérience, en termes de valeur, en termes de santé physique. Et c'est pour ça que moi, je pense que montrer des femmes dans le sport et montrer les résultats et également tous les parcours qu'il y a à côté, ça permettrait à des jeunes filles de continuer le sport ou d'avoir des modèles et de se sentir un petit peu plus représentée pour justement pas arrêter à ce moment-là et avoir un petit peu un cas dans des moments qui peuvent être des fois plus difficiles.
Sophie Leclerc, joueuse de l'équipe de France de hockey sur glace, vous terminez votre préparation dans les Alpes françaises avant de jouer vos premiers JO d'hiver la semaine prochaine à Milan Cortina. Et vous êtes aussi marraine de l'opération Sport Féminin, toujours opération de l'ARCOM pour la visibilité du sport féminin qui se déroule jusqu'à dimanche. RFI en est partenaire et nous avons proposé à cette occasion plusieurs portraits de sportifs toute cette semaine. Et demain, on en reparle dans Mondial Sport. L'invité d'Hugo Moissonnier sera l'ancienne patineuse Souria Bonali. Rendez-vous donc demain, 16h10, temps universel. Pour l'heure, il est 7h29 à Paris. À suivre dans une minute l'actualité africaine.
Santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur le thème d'aujourd'hui.
Dans notre émission Questions de femmes, la vaccination. Vos questions pour mieux comprendre le rôle de cet outil essentiel pour lutter contre les maladies infantiles.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité Santé avec Suno Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Vous avez une idée innovante pour un monde plus propre?
Un projet numérique qui améliore la gestion et la transformation des déchets, encourage une consommation responsable ou encore préserve les écosystèmes terrestres et marins de la pollution plastique en Afrique francophone?
Participez à la 10e édition du Challenge App Afrique avec RFI et France 24.
Tentez votre chance et bénéficiez d'une dotation.